Cécile a besoin d'anglais. Français, c'est pareil. Alors, c'est peut-être pas la peine de traduire. Hein. C'est bon ? Merci, Nancy. Je remercie d'ailleurs Nancy, Zoé et Ronnie qui font souvent ce travail de traduction. Un travail qui n'est pas facile. Elles font toujours ça avec discrétion et elles le font bien. On les remercie. Nous sommes toujours dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous avançons quand même, nous arrivons au chapitre 14 aujourd'hui. Il y a 16 chapitres. Un jour, j'aimerais aborder Ésaïe avec ses 66 chapitres. Mais pour l'instant, nous arrivons bientôt à la fin de 1 Corinthiens 14. Et j'aimerais replacer un peu le passage dans son contexte, parce que c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on a eu pas mal d'interruptions. On est monté à la montagne, on a eu Juif pour Jésus, on a été à l'armée du salut. Et je voudrais juste vous rappeler quelques points sur cette lettre de Paul aux Corinthiens. D'abord, il faut bien voir que si Paul écrit à cette église, c'est parce qu'il y avait des problèmes et des abus dans ce qui se passait au sein de l'église. On a vu qu'il y avait un esprit de parti, il y avait des petites cliques qui s'étaient formées. Il y avait des disputes en public, ils menaient leurs disputes devant les tribunaux civils. Il y avait de l'immoralité qui n'était pas reprise, qui n'était pas jugée. Il y avait surtout un manque d'amour. Paul disait qu'en fait, il ne manquait pas des dons spirituels, il ne leur manquait aucun don, mais par contre, l'amour, ça laissait à désirer. Et à partir du chapitre 12, Paul commence à leur parler des choses spirituelles. Et il leur dit, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc les chapitres que nous sommes en train d'étudier, 12, 13, 14 essentiellement, c'est pour nous parler des choses spirituelles et notamment des dons spirituels. Nous avons parlé des dons, ou ce qu'on appelle aussi des charismes. Et le mot charisme vient du mot grâce en grec, charis. Ce qui nous rappelle que les dons, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter, ce n'est pas quelque chose que l'on peut exiger. C'est quelque chose qu'on peut demander, bien sûr, auquel on peut aspirer. Mais c'est le Seigneur, souverainement, qui nous les donne. C'est le Saint-Esprit qui les donne comme il veut. Dans 1 Corinthiens 12, il est question de ce qu'on appelle les dons de manifestation. Il y a deux autres passages, notamment, qui parlent d'autres dons. Dans Romains 12 et Éphésiens 4, il est question, dans Romains 12, des dons de, on pourrait dire les dons de motivation. Qu'est-ce qui fait que vous avez à cœur de servir? Dans Éphésiens 4, c'est plus les dons de maturation ou les dons, les ministères qui permettent à l'Église de grandir. Mais dans 1 Corinthiens 12, il s'agit de ce qu'on appelle des fois les dons de manifestation. Alors, mercredi soir, on a vu une manifestation là qui est passée dans la rue. On a craint un peu, mais ils ont attendu, là ils ont été sages, ils ont cassé seulement un peu plus loin à la gare. On n'était pas du tout avertis qu'ils allaient passer par là. Et en fait, ils manifestaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient, ils rendaient clair, plus ou moins clair bien sûr, leurs exigences, leurs revendications. Et les dons dont il est question dans 1 Corinthiens 12, on a dit que c'était des dons de manifestation d'abord de la parole vers les autres. On a parlé des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, de prophétie. On a parlé des manifestations d'action vers l'extérieur comme la foi, les dons de guérison, l'opération des miracles. Et puis, il y a aussi les dons de manifestation de prière. C'est-à-dire ça, c'est dirigé vers Dieu, vers le haut. c'est le discernement des esprits, le don des langues et l'interprétation des langues. Et nous allons parler de ces deux dons et de la prophétie dans le passage d'aujourd'hui. Un don, c'est un talent ou une capacité non naturelle, donc qui vient de Dieu, on pourrait dire surnaturelle, et qui permet à chaque chrétien d'accomplir sa fonction dans le corps de Christ avec facilité et efficacité. Paul a beaucoup insisté sur l'analogie entre l'Église et le corps de Christ. Et il a, de façon très, très puissante, très forte, comparé chaque chrétien à des membres qui participent au corps de Christ dont Jésus est la tête. Et ça, c'est pour bien expliquer que dans l'Église, il ne doit pas y avoir d'indépendance. En France, on a souvent la réputation de bien aimer être indépendant de tout et de rien. Pas l'indépendance, mais l'interdépendance. Deux mots qui se ressemblent, mais qui veulent dire l'opposé. L'interdépendance, nous sommes tous solidaires les uns des autres. Et même ici, ce matin, il y a eu des tas de dons qui ont été en exercice. Maintenant, vous me voyez en train de vous parler de la parole, mais ça, c'est qu'un aspect peut-être visible, très visible, des dons qui sont en action. Mais il y a eu des dons d'organisation, des gens qui sont arrivés, il y a eu une mise en place, il y a eu le don de la louange qui a été exercé, il y a eu de la préparation derrière tout ça. Vous-même, vous avez dû vous préparer, décider, venir. Donc, en fait, la réunion du dimanche matin, c'est qu'un aspect visible d'une réalité intérieure que nous sommes tous membres les uns des autres du corps de Christ. Et c'est au niveau local que nous sommes un corps de Christ, mais c'est aussi au niveau de la ville, c'est au niveau de la nation et même du monde. Paul a bien pris le soin d'indiquer que tout le monde n'avait pas les mêmes dons. Il nous a posé la question, tous sont-ils des apôtres, tous sont-ils des prophètes, tous sont-ils docteurs, c'est-à-dire enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Et en grec, la construction ne laisse aucune hésitation. Ce qui veut dire, c'est, ce qui est sous-entendu, c'est que la réponse est non, bien évidemment. Donc, nous ne sommes pas à rechercher nécessairement les dons que les autres ont, mais une chose est promise aussi, c'est que chaque chrétien a au moins un don. Vous dites peut-être que moi je ne sais rien faire, c'est faux. Ne serait-ce que votre présence, ne serait-ce que votre sourire, ne serait-ce que votre hospitalité, tous au moins ont un don. Et comme on peut en avoir plusieurs, la combinaison de tous ces dons, les dons qui sont recensés dans les passages dont j'ai parlé, ils sont au nombre de 20 ou 24, je ne sais plus. Mais pour ceux qui ont fait des maths, la combinatoire de 1, 2, 3, 4 ou 5 dons parmi 24 ou plus, parce que rien ne dit que c'est exhaustif, fait qu'en fait, chaque chrétien est différent. Chaque chrétien a un peu comme des empreintes digitales, des empreintes de dons différentes. Paul nous encourage à aspirer, c'est-à-dire à désirer avec zèle, avec intensité, les dons les meilleurs. Alors les dons les meilleurs, on en a parlé, ça dépend de quel est votre ministère. Qu'est-ce que vous faites dans l'Église, qu'est-ce que vous avez à cœur de faire? Et si vous devez enseigner, le don d'enseignement est une chose importante. Si vous devez vous occuper de recevoir des gens, le don d'hospitalité, souvent vous pouvez déjà l'avoir, mais vous pouvez demander d'autres dons. Ce qui est intéressant, c'est que entre le chapitre 12 et le chapitre 14, Paul va mettre le chapitre 13. Et le chapitre 13, nous avons vu que c'était, pour reprendre le titre d'une chanson d'Édith Piaf, un hymne à l'amour. Il parle de l'amour comme étant la voie par excellence. Nous avons rappelé qu'il y avait une très belle typologie, une très belle préfiguration des dons et de l'amour dans les vêtements du grand prêtre. Sur l'ourlet de sa robe, il y avait des clochettes qui faisaient du bruit, qui manifestaient, dons de manifestation, mais il y avait aussi des grenades qui étaient pour les juifs un exemple même du fruit qui donne beaucoup de graines, qui donne beaucoup de fruits. Et nous savons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22 nous dit le fruit de l'esprit est l'amour. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le mot fruit est au singulier. Et on pense que le vrai fruit de l'esprit, c'est l'amour. Toutes les autres qualités étant comme des attributs de cet amour agapé. Et cet amour, c'est un amour qui n'est pas naturel, c'est un amour qui vient de Dieu, et c'est l'amour de Dieu. J'ai entendu une fois un chant qui s'appelait « L'amour de Dieu » en anglais, et je l'ai entendu qu'une fois, et les paroles m'avaient vraiment saisi. Et depuis plusieurs années, j'essayais de retrouver dans des livres de chants, d'hymnes. J'étais même passé à Londres, j'avais demandé à un monsieur qui s'occupe d'une bibliothèque chrétienne, qui a des tas de vieux livres, s'il connaissait ce chant, il ne pouvait pas le trouver. Et grâce à l'internet, hier, en 2-3 coups de souris, j'ai pu trouver les paroles, et j'ai même la musique en sonde informatique. Et la chanson s'appelle simplement « L'amour de Dieu ». Je ne vais pas tout vous lire. Mais je vais vous donner une mauvaise traduction d'un des couplets, et qui est très graphique, mais qui dit qu'en fait, si les océans, si on pouvait remplir les océans avec de l'encre, ça serait une marée noire terrible, mais ça serait de l'encre. Tous les océans de la terre remplis d'encre, et si tous les cieux étaient comme un parchemin, et si chaque brin d'herbe, je crois que quelqu'un le reconnaît, hein, si chaque brin d'herbe sur la terre était une plume avec laquelle on peut écrire, et si chaque homme, chaque femme était un scribe, un écrivain professionnel, il dit que d'écrire l'amour de Dieu, du Dieu d'en haut, ça assécherait ces océans. Et tout le rouleau ne pourrait pas prendre place, même étendu dans tous les cieux. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour agapé. C'est l'amour qui est si riche, si pur, si inestimable, si puissant, qui dure au siècle des siècles. Ça, c'est d'autres paroles de ce couplet. Mais lorsqu'on parle d'amour de Dieu, il nous faut être très, très humble, parce que nous n'avons qu'une si faible idée de ce que c'est. Nous pouvons en parler intellectuellement. J'apprécie ce chant et ces images qu'il utilise, parce que ça étend un peu notre imagination de penser que l'amour de Dieu est insondable. Mais il est là. Et c'est cet amour que Dieu veut répandre dans nos cœurs par son Esprit Saint, pour que nous touchions ceux qui nous entourent. Et puis, dans ce chapitre 13, Jésus nous dit que lorsque Jésus apparaîtra, les dons seront abolis. Lorsque le parfait se montrera, alors certes, nous avons expliqué que certains pensaient que c'était le canon des Écritures, c'est-à-dire la Bible complètement écrite. Nous avons vu que il est associé à cette rencontre lorsque nous verrons face à face, que nous serons connus parfaitement, que nous connaîtrons parfaitement comme nous sommes connus. Nous avons vu la semaine dernière que ça ne pouvait pas être autre chose que le retour de Jésus qui viendra enlever son Église, qui viendra nous voir sur la terre. Son Église sera enlevée dans les cieux, et sans rentrer dans les détails de calendrier, une chose est sûre, Jésus va revenir. Et je crois que c'est seulement à ce moment-là que les dons seront abolis. Parce que nous le connaîtrons face à face, nous n'aurons plus besoin d'avoir l'aide du Saint-Esprit, nous le verrons tel qu'il est. Et donc, Paul disait, l'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et donc, par même l'amour à la foi et à l'espérance, pour dire que c'est l'amour qui est la plus grande de toutes ces qualités, de toutes ces choses. Nous avons dit aussi une chose importante, c'est que les dons doivent être comme des récipients qui contiennent l'amour. Les dons ne sont pas des jouets pour nous amuser, des choses pour nous enorgueillir. Ça doit être des outils, des instruments qui nous permettent de répandre cet amour autour de nous. Et on a parlé de l'analogie, si j'ai très soif, et que quelqu'un vienne avec un pichet en argent finement ciselé, brillant de tous ses feux, mais si ce pichet est vide, alors il m'est d'aucune utilité. Par contre, quelqu'un qui viendra avec un peu d'eau dans le creux de ses mains, cette eau-là va me faire énormément de bien, parce que c'est ce qui compte, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Et les dons, c'est un peu ce que Paul disait lorsqu'il commence dans le chapitre 13, si j'avais tous les dons, si j'ai pas l'amour qui doit le porter, alors je suis rien, ça sert à rien, c'est zéro. Donc Paul fait une parenthèse au chapitre 13 sur l'importance de l'amour par rapport aux dons. Et sans doute c'est parce qu'il savait que ce qu'il écrivait, ça allait provoquer du remue-ménage à Corinthe. On sait qu'à Corinthe, les gens s'enorgueillissaient, étaient très heureux de pouvoir parler en don plus fort que les autres, ou tous en même temps, dans le désordre. Paul savait que ça allait être un sujet controversé à Corinthe. Ce qu'il ne savait pas, mais que l'Esprit Saint savait, c'est que ce serait un sujet controversé en l'an 2001. Aujourd'hui, c'est encore un sujet très controversé. Et je crois que cette parenthèse de l'amour, elle est là pour nous indiquer que nous devons, avec amour, choisir d'être d'accord pour ne pas être d'accord dans tous les détails. Et aujourd'hui, il y a en gros deux camps extrêmes, et puis de la place au milieu. D'un côté, il y a les conservateurs qui disent que les dons sont passés, que justement le parfait c'était la fin du Nouveau Testament enfin reçu et imprimé et décidé. Et cela, et peut-être parmi nous il y a les extrêmes, il y a ceux qui sont au centre, il y a ceux qui pensent que ces dons que certains pratiquent, ce sont au mieux des impressions de dons, que c'est du charabia, que les gens sont peut-être sincères, mais que ça ne correspond à rien. Et au pire, ça vient peut-être même de mauvais esprits qui mettent ces paroles dans la bouche des gens. On y reviendra un peu. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, les dons, on l'a expliqué, ont été remis en vigueur à l'honneur et en pratique par le mouvement pentecôtiste qui est né aux États-Unis au début du siècle dernier. Les pentecôtistes et maintenant ce qu'on appelle le mouvement charismatique, du mot charisma, des dons. Certains vont jusqu'à dire que, et pas tous, hein, encore une fois, il faut être très prudent dans ce qu'on affirme et ce qu'on dit. Il y en a qui disent que si on n'a pas le parler en langue, ça veut dire qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit et en quelque sorte on est un chrétien de second rang. Quand on regarde dans la Bible et qu'on cherche les passages qui parlent du don des langues, on est surpris de voir qu'en fait, il n'y en a que très très peu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que 4 passages qui parlent du don des langues. Il y a le passage à plusieurs reprises donc, que nous sommes en train d'étudier de 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Mais sinon, l'autre moment où on parle des dons, du don de parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte, dans Actes 2. On peut lire ensemble Actes 2, 4 à 11, si vous le voulez. Donc vous vous souvenez que ces disciples étaient réunis et ils attendaient d'être baptisés d'Esprit Saint ou dans l'Esprit. Et Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est le verset 8 du chapitre 1. Et la réalisation de cette promesse de recevoir l'Esprit Saint, c'est au verset 4 du chapitre 2. Ils furent, on peut commencer au verset 1, chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisait, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Partent, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc ça c'est la première manifestation dans le Nouveau Testament de ces langues parlées sans avoir jamais été apprises. Un autre passage c'est dans Actes 10. On peut s'y tourner là aussi, acte 10. Acte 10, à partir du... C'est Pierre qui est appelé par un songe à se rendre chez un païen, Corneille, un centenier des Romains, un centurion romain, ce qui était une grande première pour un juif de se rendre chez des païens. Parce que d'habitude, ils pensaient que c'était se souiller, d'être au contact de païens. Et Pierre explique à ces païens, à partir du verset 44, il est dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots de témoignage pour expliquer l'Évangile, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu. » Un autre passage, ça c'est le deuxième passage, c'est dans Actes 19. Acte 1 à 7, Paul enseignait à Éphèse, et pendant qu'Apollos, chapitre 19, verset 1 du livre des Actes, page 56 dans la Bible bleue, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse, il rencontra quelques disciples, et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. » Et puis le seul autre passage se trouve dans Marc, à la fin de l'évangile de Marc, Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et en fait, lorsqu'on a, on a cité ces passages, on a fait le tour avec 1 Corinthiens 12 des passages qui parlent du parler en langue. Et ce qui est frappant, c'est de réaliser que la Bible accorde si peu d'importance dans le nombre de passages qui parlent de ce don, et pourtant aujourd'hui c'est le sujet, peut-être le sujet principal qui divise les églises et qui a causé beaucoup de schismes dans des communautés, dans des groupes fraternels. Et encore une fois, je crois que Paul a parlé de l'amour pour nous dire ce qui compte, c'est pas de savoir si on peut parler en langue ou pas parler en langue. Ce qui compte, c'est de savoir si on a l'amour de Dieu et qu'on veut le donner aux autres autour de nous. Quant à penser que les dons sont d'origine, peut-être comme les conservateurs extrêmes le pensent, sont tous des choses démoniaques, il est intéressant de savoir, et moi je l'ai découvert qu'il y a quelques années, que le parler en langue, c'était pas un phénomène réservé aux chrétiens. Et qu'en fait, il y a beaucoup de religions anciennes ou de fausses religions où on a des phénomènes de transe qui induisent un parler en langue, un parler que personne ne comprend. Ce qu'on appelle des fois la glossolalie, c'est-à-dire parler en langue, pas nécessairement chrétien. Et dans l'Antiquité, il y avait le culte d'Apollon, il y avait les oracles de Delphes. Aujourd'hui encore, dans certaines cultures, il y a ce qu'on appelle les chamans. Et j'ai un très bon ami qui est missionnaire en Chine. Et il m'avait montré un film d'une cérémonie, justement, où on voyait un personnage qui semblait vraiment possédé par des esprits et qui, pendant un long moment, criait et chantait en dansant des mots incompréhensibles, même pour les Tibétains, d'après ce qu'on m'a dit. Et une chose, encore une fois, je crois que c'est... On peut être inquiet de se dire, oui, si on commence à parler en langue, ou si on s'ouvre au parler en langue, les démons vont venir me prendre possession de moi. Je crois qu'il faut revenir à Luc 11:11, où Luc nous rapporte les... Luc 11:11... Ce sont les paroles mêmes de Jésus qui dit « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Ça, c'est pour bien mettre les choses en place. Il dit « Vous êtes, si vous avez des enfants, vous n'allez pas leur donner des mauvaises choses qui vont les faire souffrir, des choses qui vont même mettre en péril leur vie. » Et il continue en disant, « Si donc vous qui êtes mauvais, nous par rapport à Dieu, même les meilleurs pères parmi nous sont de très mauvais pères par rapport au rôle de père de Dieu. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc ce verset doit nous rassurer que si nous voulons davantage de Dieu, si nous voulons recevoir tout ce qu'il peut nous donner, si nous nous ouvrons au don spirituel, nous lui demandons dans la prière, nous aspirons à ce qu'il nous donne le parler en langue, le don de prophétie, il le fera s'il le désire, et peut-être ça prendra du temps, il testera peut-être notre foi, mais c'est lui qui va les donner, il ne va pas nous envoyer des scorpions, il ne va pas nous envoyer des serpents, il ne va pas nous envoyer des pierres à la place de sa parole, du pain. Voilà. Il va, dans le chapitre 14, il va s'attacher surtout au don de prophétie, du don des langues, parce que nous allons voir que le but de toute église, le but de toute assemblée chrétienne, c'est à deux pôles. D'abord le pôle intérieur. Nous sommes ici pour nous fortifier mutuellement, pour que nous puissions grandir spirituellement. Ça, il faut fortifier l'église. Et puis, c'est pas le tout d'être fort à l'intérieur. c'est pas le tout de devenir un club, un yacht club. Il faut aller à l'extérieur, il faut avoir un impact à l'extérieur. C'est le deuxième volet de notre mission, en quelque sorte. C'est d'aller évangéliser, d'aller baptiser les gens, toutes les nations de la terre. On doit être, non un yacht club, encore une fois, mais une mission de sauvetage. On doit être prêt à partir par tous les temps, à ramer dur contre les vagues, à payer de notre personne pour amener la bonne nouvelle à ceux qui se noient dans les mensonges. Nous allons nous rappeler que il a commencé, on l'avait vu la semaine dernière, le chapitre 14, il avait dit encore « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Il nous dit toujours, ce qui compte encore une fois, c'est l'amour. Mais sa pensée, c'est que pour donner cet amour, pour le transmettre, il faut avoir ses dons spirituels. Donc si vous recherchez l'amour, vous voulez aspirer aussi aux dons spirituels. Et puis là, il va nous dire tout de suite, surtout celui de la prophétie, on va lire. Mais rechercher l'amour, c'est même plus, mieux traduit, ce serait poursuivez l'amour. Et je l'avais vu venir, mais j'étais pas encore à l'arrêt. Donc j'ai essayé de courir vers l'arrêt, mais bien sûr, il n'y avait pas assez de monde pour le retenir très longtemps. Donc quand je suis arrivé à l'arrêt, il venait juste de redémarrer. Puis j'ai vu plus loin qu'il s'était arrêté un feu rouge. Alors j'ai continué de courir, mais ça, c'est poursuivre. Poursuivre, c'est pas se dire, oh tiens, je vais essayer. C'est vraiment y aller de tout son cœur, de pas s'arrêter en chemin. Si on a un échec, on repart. C'est ça, rechercher l'amour. Donc on va lire ensemble les versets 1 à 25 du chapitre 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langages, aucun n'est inarticulé. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, alors tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Nous allons nous arrêter là. Nous voyons donc que là, il va être question du don de prophétie et du don des langues. Et d'entrée, on a vu, Paul nous dit, les langues c'est bien, mais je veux que vous soyez surtout capables de prophétiser. On avait rappelé, je vais rappeler la définition que nous avions donnée de dire, de prophétiser. Nous avons dit que c'était dire la vérité. Et dans l'Ancien Testament, on parle souvent de la prophétie comme quelque chose qui va prédire le futur. Dans le Nouveau Testament, c'est souvent utilisé pour proclamer la vérité qui est déjà révélée. Ça peut avoir un aspect de futur, mais souvent c'est simplement proclamer avec force la vérité. Prophétie, ça veut dire dire en avant, ça peut vouloir dire à l'avance, ou en avant comme avec force devant tout le monde. Et on avait dit, c'est parler une parole inspirée par Dieu de façon à faire briller la lumière divine sur une personne, un problème, pour un groupe de personnes, et manifester le cœur de Dieu avec conviction et encouragement. Prophétiser, c'est expliquer, c'est appliquer la parole de Dieu dans une situation. Certains pensent que prophétiser, ça recouvre même la prédication, qui est l'annonce de la vérité de la parole. Et il nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Les langues, nous avons dit que c'était un langage de prière et de louange qui était donné par le Saint-Esprit pour permettre à notre esprit de communiquer avec Dieu, et c'était quelque chose qu'on n'apprenait pas par l'éducation, en entendant parler d'autres personnes ou en allant dans une école. Comme Mike et Rain qui apprennent le français, il n'y a pas d'école de langue au sens du don de parler en langue. Et le verset 2 parle d'un point fondamental que je vous invite vraiment à souligner. Si vous avez un crayon, soulignez-le. Parler en langue s'adresse à Dieu et non pas aux hommes. Ça veut dire que il le dit même plus loin au verset 28, il dit « Si on n'a pas d'interprète, qu'on parle à soi-même et à Dieu, et qu'on se taise dans l'Église. » Dans Acte 2, nous avons vu que les gens de différents pays réalisaient qu'en fait, on leur parlait dans leur langue, la langue de leur pays, bien que ces Galiléens, ces disciples n'aient jamais appris la langue, Dieu leur donnait le don de communiquer avec ces gens qui n'avaient pas la même langue. Et en fait, ce n'était pas pour annoncer l'évangile, puisque l'évangile, ça va être Pierre qui va le prêcher. Nous savons avec quel résultat il va le faire. Eux, ce qu'ils disaient, c'était... Ils entendaient la louange de Dieu dans leur langue. Le parler en langue, c'est un parler de louange qui s'adresse à Dieu. Il dit, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, si tu rends grâce par l'esprit. Donc, le parler en langue, ça regroupe toutes ces activités de louange, de chant, d'action de grâce, de bénédiction de Dieu pour son amour, sa miséricorde pour les hommes. Ce sont des mystères parce que personne, sauf les personnes qui connaîtraient la langue, ne comprendraient le langage. Et tout de suite au verset 3, il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. » Et il donne trois bénéfices de cette parole aux hommes. C'est « ça édifie, ça exhorte et ça console. » Édifier, ça veut dire bâtir, ça veut dire construire. Ça veut dire faire réaliser des vérités, de communiquer des vérités, de façon à ce que les gens puissent faire de ces vérités quelque chose qui va les aider à grandir. Un exemple, c'est par exemple le fait que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Alors si on communique ça, si les gens font ça, quelque chose de vrai dans leur vie, ils vont pouvoir grandir. S'ils en restent au sentiment, se dire, mais en fait, j'ai prié pour recevoir le Seigneur il y a 2 semaines, mais je vois que j'ai toujours les mêmes tendances pour le péché, j'ai encore fait telle chose que je sais ne pas être bonne devant Dieu. Et si on s'en fie au sentiment, on va dire, en fait, il n'y a pas de nouveauté dans ma vie, rien n'a changé. Et on peut expliquer ces choses, par exemple, lorsque, je le dis souvent, j'aurais pu adopter la nationalité américaine, et on aurait dû compter mon vote, peut-être le recompter, non. Mais ça n'aurait pas fait de moi instantanément un Américain dans le cœur, ou dans la culture, dans les traditions, dans la coutume. Je m'embêterais toujours au baseball, même si j'avais un passeport américain. Mais il n'empêche qu'il y a une vérité légale, une vérité objective qui fait que du jour au lendemain, j'ai la nationalité américaine. Les forces des États-Unis peuvent venir me chercher si je suis prisonnier dans tel pays contestataire, ou peut-être me laisser mourir là-bas. Mais j'ai quelque chose s'est passé, même si mes sentiments, je dis, mais je préfère toujours le camembert au cheddar cheese, au fromage américain. Je préfère un peu de Beaujolais à un grand verre de coca. Tout ça pour dire qu'il y a des vérités qu'il faut recevoir. Il y a des vérités qu'on n'arrive pas à comprendre par nos sentiments. Et ça fait partie d'édifier, ça fait partie de bâtir les chrétiens. Alors, oubliez les exemples, mais rappelez-vous que vous êtes une création nouvelle en Christ. Et puis ça exhorte. L'exhortation, c'est le mot duquel on tire le mot paraclé. C'est souvent un mot qu'on utilise pour désigner le Saint-Esprit. Ça veut dire celui qui vient auprès de nous. Exhorter, c'est venir encourager quelqu'un en venant auprès de cette personne pour intercéder, pour parler au juge. Nous avons besoin souvent d'aide dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Et la parole de prophétie peut nous encourager comme cela. Et puis dernièrement, le dernier point, c'est ça doit être capable de nous réconforter, nous remonter. C'est là encore une fois, c'est quelque chose dont nous avons tellement besoin. Et une prophétie, ça peut être une parole comme mes enfants, ne perdez pas courage. Je suis votre père, je suis là. Et lorsqu'on reçoit quelqu'un, et je vous encourage, si vous avez des fois quelque chose qui vous brûle sur le cœur, que vous avez envie de dire à l'assemblée, quelque chose qui va édifier, exhorter, réconforter, prenez le risque de dire ces paroles. Personnellement, je l'ai déjà partagé. J'ai été énormément encouragé par des gens qui ont pris ce risque et qui ont dit une parole, mes enfants, ne baissez pas les bras, le Seigneur est là, votre œuvre n'est pas en vain dans le Seigneur. Ça peut être simplement de rappeler une parole de biblique qui va vous dire, mais vraiment, là, cette parole parle à mon cœur et vous allez voir que Dieu est parmi nous, vous allez être encouragé. Et c'est ce qui est dit au verset 4, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. De sentir qu'on a une relation très forte avec le Seigneur par notre esprit, à son esprit, ça peut aussi nous fortifier, mais dans l'Église, ça va pas vous fortifier, vous, à moins qu'il y ait une interprétation. Verset 5, il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Donc, soyons bien clairs, Paul ne dénigre pas le don des langues. Il dit pas, tout ce que vous racontez c'est du charabia, ça n'existe pas. Il dit, moi j'aimerais que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Et il dit carrément, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église elle aussi soit édifiée. Et donc l'interprétation c'est aussi un don spirituel, c'est la capacité de traduire un message en langue, pas nécessairement mot à mot, mais pour en restituer le sens Et de telle façon que des fois, un parler en langue va durer une minute et l'interprétation va durer 20 secondes. On va dire, mais c'est bizarre ça. Ça peut être simplement une restitution du sens. Et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, le parler en langue s'adresse à qui ? À Dieu. Et souvent, et notamment dans les églises des mouvements pentecôtistes ou charismatiques, on a quelqu'un qui va parler en langue et on va avoir une soi-disant interprétation qui va s'adresser à l'église. Qui va dire, mes petits enfants, persévérez dans le travail que vous avez commencé, je vais le bénir, le monde saura que je suis Dieu. Alors ça, vous pouvez être sûr que c'est pas l'interprétation du message du parler en langue. Ça ne veut pas dire que le parler en langue n'était pas authentique, mais l'interprétation n'est pas une interprétation. C'est peut-être une autre parole de prophétie, mais on a escamoté l'interprétation de la parole du parler en langue. Alors c'est toujours important de bien savoir que le parler en langue, il s'adresse toujours à Dieu. Donc c'est toujours une louange, mais c'est pas Dieu qui va s'adresser à nous par le parler en langue. Il va s'adresser à nous par les prophéties et par d'autres dons. Et Paul va prendre un exemple personnel. Il va dire, maintenant frère, si à quoi je vous servirais si je vous parlais en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Autrement dit, si il y a quelqu'un qui parle peut-être russe, mais si je commence à baratiner, je ne parle pas très bien le russe, j'ai appris un peu. Vadin prekrasny dien imeni prekrasny chelovek Ivan Ivanovich, quelque chose comme ça. À quoi ça va vous servir? Hein? Ça va servir à rien. Et c'est ce que je dis. Si je vous parle en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. Là encore, Paul nous donne une définition de ce qu'est le vrai ministère de la parole. Lui qui était apôtre, il pouvait apporter des révélations, des choses qui n'étaient pas encore révélées, puisqu'il les a écrites dans la parole que nous étudions. Il pouvait donner une parole de connaissance, c'est-à-dire quelque chose, des informations précises qui étaient révélées de façon surnaturelle pour conduire à la prière ou au service des autres. Il pouvait dire une prophétie, ou il pouvait utiliser son don de pasteur-enseignant pour enseigner l'Église. Puis après, il prend des exemples tirés de la musique. Il dit si il parle de flûte, de harpe, qui ne rendent pas des sons distincts, on ne peut pas reconnaître la musique, si au lieu que ce soit Mike et Tonio qui jouent la guitare et Zoé le violon, si on prenait les enfants à côté, on leur donne des instruments de musique, peut-être qu'il y en a qui commencent à jouer de la musique, je sais, Romain, mais il y aurait peut-être une vraie cacophonie. Et puis il dit aussi si la trompette, alors il parle de la trompette dans le cadre militaire, si elle rend un son incertain, qui va se préparer au combat? Quand j'ai fait mon service, on était réveillé par le clairon. Dieu merci, on n'a pas eu à faire d'attaque ou de retraite. Mais si le clairon, la personne qui jouait du clairon avait mélangé les deux, le matin, au lieu de se lever et d'aller au petit déjeuner, on serait parti à l'attaque. Au lieu d'attaquer, on aurait battu en retraite. Il faut que ce soit clair. La communication ne peut pas se faire s'il n'y a pas un langage commun. En parlant de trompette, là, l'autre jour, c'était pendant les manifestations à Nice, là, à midi, j'ai entendu la sirène qui sonne le premier mercredi du mois, et je me suis demandé, il y a peut-être certains manifestants qui ont pensé que c'était le début de la guerre mondiale ou que c'était l'attaque des forces de police. Si on ne sait pas quel est le langage, le code qu'on utilise, on est perdu. Et il dit, si vous parlez en langue, sans donner de traduction dans l'église, ça va être du charabia, vous parlerez en l'air. Et il dit, tous les langages sont articulés, il y a un sens. Il parle des barbares, si je ne connais pas un langage, je suis comme un barbare pour ces personnes qui parlent ce langage. Et moi, celui qui le parle sera un barbare pour moi. Un barbare, c'était quelqu'un, pour les Grecs, le mot barbare, c'était une façon de dire du charabia. Parce qu'ils entendaient blablabla, et disaient barbare. C'est ce qu'on m'a raconté, hein. J'y étais pas, mais c'est une belle explication du mot barbare. Et verset 12, il rappelle que on ne doit pas avoir des motivations égoïstes. Il est bon d'être édifié personnellement. Mais si on aspire au don spirituel, ça doit être aussi pour communiquer cet amour, ça doit être pour servir l'Église, pour manifester l'amour de Dieu. Et il dit, cherchez à les avoir en abondance, et que celui qui prie en langue prie aussi afin de pouvoir interpréter. Le parler en langue, on le verra dans le passage suivant, la semaine prochaine, Dieu voulant, que on peut parler en langue dans des réunions publiques du moment qu'il y a une interprétation et que ça se fait dans l'ordre, qu'il n'y a que quelques personnes. Il faut pouvoir interpréter ce parler en langue. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile, c'est-à-dire que mon intelligence ne comprend pas. Alors ça peut être un inconvénient de ce que l'intelligence soit pas présente dans le parler en langue. Ça l'est surtout dans la communion fraternelle lorsqu'on quelqu'un parle et qu'on ne comprend pas ce que la personne dit. Mais on peut voir aussi des bénéfices, bien sûr, au parler en langue. Encore une fois, est-ce que vous avez besoin d'aide dans votre vie de prière? Ou est-ce que vous êtes tous satisfaits? Je crois que ça, c'est une des choses, le Seigneur nous rappelle notre dépendance de lui. Nous sommes tellement faibles dans la prière, dans la régularité, dans la sincérité, dans la profondeur. Et je crois que ça, on peut prier pour que notre vie de prière personnelle et à tous ensemble, elle augmente en qualité, elle augmente en vérité, en sincérité, en puissance. Et Paul nous dit que l'Esprit Saint, dans Romains 8, vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors certains pensent que ça, c'est une définition du parler en langue. Peut-être pas, mais nous pouvons soupirer devant le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a des situations, on n'est pas sûr de demander, Seigneur, que ta volonté soit faite, ou Seigneur, fais pour que ton royaume en sorte vainqueur. Mais il y a des situations, combien de fois nous prions pour une chose alors que si Dieu nous accordait cette chose, nous serions bien malheureux, ou son royaume n'avancerait pas. Donc, le fait qu'on court-circuite un peu l'intelligence, ça nous permet de prier pour des situations dont nous ne savons pas que faire. Ça met aussi un des principaux obstacles à notre vie de prière, c'est le doute. Seigneur, je prie pour que tu convertisses tous les adolescents de Nice, tous ceux qui font du skateboard, du roller, ceux qui font des tags sur les murs. Seigneur, je veux que tu les arrêtes dans leur élan, et que tu t'imposes à eux par ton Esprit Saint, par ta puissance. Et je vois les gens sourient parce que quelque part on se dit, mais ça c'est, avec la télé, les médias, tout ça, c'est impossible. Et donc, on va peut-être prier, mais quelque part il va y avoir du doute. Si on prie selon l'Esprit, si on prie en langue, en louant Dieu pour qu'il fasse cette action, on va mettre en dehors de pistes, quelque part, ces doutes. Et puis, dans la louange, souvent nos mots peuvent être incapables d'exprimer l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu. On le chantait tout à l'heure, « Entends mon cœur », parce que, j'oublie les paroles là, je ne pourrais pas l'exprimer, alors entends mon cœur. J'étais tellement heureux de retrouver cet hymne que je cherchais depuis plusieurs années, parce que ces quelques paroles m'avaient étendu mon imagination, avaient poussé les limites de mon imagination, et m'avaient donné une façon de comprendre un peu mieux l'amour de Dieu. Mais là aussi, nos mots arrivent, l'encre, les plumes, les parchemins, quelque part on est incapable, il y a des moments où on est incapable d'exprimer tout ce qu'on ressent. Le parler en langue nous permet de louer le Seigneur, et aussi de le louer, puisque notre intelligence n'est pas dans le circuit, nous permet de prier sans cesse. Dieu, Paul nous dit de prier sans cesse. On peut être toujours dans la prière et faire autre chose. Paul ne veut pas que l'intelligence soit complètement exclue. Il dit: que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec de l'intelligence. C'est-à-dire que quand il y a une traduction, à ce moment-là, mon intelligence peut dire amen. Je peux comprendre ce que je demande. Chanter par l'esprit avec l'interprétation, ça va être chanter avec intelligence aussi. Et surtout, il dit, si vous faites ça dans l'église sans interprétation, comment est-ce que les gens vont pouvoir dire amen? C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Ça, c'est ça peut être une fois des paroles qu'on dit automatiquement, mais amen, c'était une façon de dire oui, Seigneur, je demande cette chose aussi, cette chose que telle personne vient de dire pour ta louange. Je veux dire que oui, je suis d'accord. Paul, encore une fois, dit, c'est pas que je rejette le parler en langue. Il dit, je parle même plus que vous. Je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Alors s'il ne parlait pas dans les réunions publiques, qu'il parlait plus que tout le monde, ça veut dire qu'il parlait en langue dans son temps de prière personnelle, son temps de dévotion personnelle devant le Seigneur. Mais dit-il, dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence plutôt que 10 000 paroles en langue. Ça fait un rapport de 1 à 2 000. Hein. Il y va très fort. Il dit, le parler en langue sans interprétation, moi je préfère vous dire des vérités, des révélations, des paroles de connaissance, de l'enseignement, plutôt que vous dire des choses que vous ne comprendriez pas. Verset 20, c'est un verset qu'on cite des fois dans d'autres contextes. « Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. » Ce qu'il veut leur dire, c'est que ne soyez pas comme des enfants dans votre critique méchante de ceux qui parlent en langue ou de ceux qui ne parlent pas en langue, mais soyez matures, soyez comme des adultes, des hommes faits. Ce verset a une valeur aussi hors de son contexte, l'idée d'être des petits-enfants vis-à-vis du mal. Et ça me parle, moi, de dire que, en ce qui concerne les perversions, les vices, ne cherchez pas à connaître ce que certains font, même si c'est pour pas dans l'esprit de les imiter, mais il y a des choses dont on ne veut même pas entendre parler. Il y a des horreurs, des perversions. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont montrées dans les films, qui sont décrites dans les romans, des horreurs que peut-être on n'aurait jamais imaginées si on ne les avait pas vues. Et moi, je garde ce verset pour dire, pour le mal, soyez comme des petits-enfants. Ne cherchez pas à connaître toutes les perversions, toutes les horreurs, les atrocités, les tortures que certains peuvent faire. Soyez des petits-enfants, ne cherchez pas ces choses-là. Et puis Paul va faire référence à un verset de l'Ancien Testament, c'est dans Ésaïe 28:11. À l'époque, les Assyriens menaçaient Jérusalem, le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu, et Dieu allait envoyer un jugement par les Assyriens. En fait, cette menace est réalisée avec les Babyloniens 100 ans plus tard. Ésaïe 28:11 dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, une autre façon de dire barbares, d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve », mais ils n'ont pas voulu écouter. Même avec d'autres langues, les Juifs n'avaient pas reconnu que Dieu voulait leur parler pour les discipliner, qu'il y avait urgence pour eux de se reprendre. Et puis, verset 22, il dit, « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Alors, c'est vrai dans le cas des langues que les... qui ont été entendus le jour de la Pentecôte, c'était pas pour les croyants qu'il parlait, mais c'était pour le bénéfice de ceux qui ne comprenaient pas l'araméen. C'était un signe. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? On parle notre langue et on parle des merveilles de Dieu. Donc c'était un signe, une chose miraculeuse qui a attiré leur attention. Mais au verset 23, il dit, si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue et qu'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas tous que vous êtes fous? Alors là, il a l'air de se contredire. Il dit, s'il y a des gens qui viennent dans l'église et qui vous entendent parler en langue, ils vont dire c'est du charabia, vous êtes tous fous. Là, je crois que il s'agit de personnes qui ne comprendraient pas la langue qui est parlée. Alors là aussi, il y a un débat. Pour certains, le parler en langue, c'est toujours un langage qui est parlé quelque part ou qui a été parlé quelque part, un langage humain. Pour d'autres, il y a aussi le langage des anges, donc un langage qu'on ne pourrait jamais comprendre en tant qu'homme, même si on cherche les spécialistes de langue dans le monde entier. Et le verset qui prête à penser ceci, c'est que Paul disait « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, etc. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. » Donc il est possible qu'il y ait deux sortes de langues, et dans ce cas, ce serait dans le verset 22, ce serait le langage un langage humain, alors que le verset 23, ce serait un langage angélique que personne ne comprendrait. Mais personnellement, je sais que j'ai été affecté par ce parler en langue. C'est peut-être pas juste de dire que j'ai été personnellement affecté, mais ma sœur aînée avait été invitée, voilà peut-être 20 ans, dans une assemblée où les gens se mettaient à parler en langue dans le désordre. Et je me suis dit qu'en fait, et ça l'avait complètement affolée, dégoûtée, elle avait dit c'est une secte, c'est des gens bizarres, elle avait rien voulu entendre. C'était une église évangélique pourtant. Et ça, c'est il y a près de 30 ans, j'ai dit 20 ans, c'était il y a près de 30 ans. Et je me dis que s'il n'y avait pas eu ce parler désordonné en langue, peut-être qu'elle aurait été prête à écouter la parole de Dieu, à revenir. Peut-être par son influence, j'aurais pu être touché moi aussi. Elle m'aurait peut-être invité, mais parce qu'il y avait ce charabia, elle avait pris ses distances, elle a dit, ils sont tous fous là-dedans. Par contre, verset 24, si tous prophétisent, donc parlent des,